Bah, il est l'heure de retrouver l'émission Écriture dessinée, comme toutes les semaines à cette heure-ci, et c'est en compagnie de Bruno. Bonjour Bruno.
Bonjour Fabien. Alors, il a fallu de très nombreuses années pour que l'on associe le mot art à la bande dessinée d'humour. Et pourtant, tous nous nous souvenons de gags de Gaston Lagaffe, par exemple. Si nous le lisons attentivement, chaque page de Franquin a une écriture d'une grande précision. La mécanique du gag est faite au cordeau. Midame, avec l'art du gag, a cette reconnaissance de son art, de cet art de la bande dessinée d'humour. Midame, c'est l'auteur de Kid Paddle et de Game Over, et il a adapté en dessin animé ces deux séries très importantes, 10 millions d'exemplaires vendus à ce jour. Et il y a aussi des séries comme Durant les travaux, l'exposition continue, dessinée par Clark. L'auteur s'est aujourd'hui entouré de scénaristes et de dessinateurs. Nous serons avec Midam à partir de 14h15, eh bien pour qu'il nous explique un peu ce qu'est l'art du gag. À tout de suite. Écriture dessinée. Bonjour à toutes et à tous. Fabien est à la technique. La programmation musicale est choisie par Midam, l'invité d'aujourd'hui. Nous allons écouter successivement Alain Souchon, Ava Max avec Tiësto, et puis on finira avec Randy Crawford. Pour commencer, je voudrais évoquer un dessinateur d'humour. C'est pas un auteur de bande dessinée, c'est plutôt un dessinateur de gags en une image, parfois plusieurs. Et c'est Chaval. Alors, il y a eu, il y a quelques mois, une édition des 100 meilleurs dessins de Chaval, mais préfacée par Philippe Gueluc. Alors, c'est important, cette filiation. D'une part, Philippe Gueluc reconnaissait ce qu'il doit à Chaval, faisait un exercice d'admiration, ce qui est toujours une très bonne chose. Et c'est une façon aussi de rappeler que des auteurs comme Cabu, Wolinski, Reiser et de nombreux autres considèrent comme Chaval comme un maître incontesté. Alors, c'était suffisamment important pour en créer cette émission qui sera consacrée à l'humour avec ce maître du dessin d'humour. Et il a aussi une écriture, il est capable de faire des lettres tout à fait pertinentes. Et puis, il a ce trait épais, franc, appuyé avec cette souplesse du trait de pinceau et qui pourtant va quand même donner toute sa vivacité au dessin. Il y a un espace dans les images de Chagall, une gestion du temps qui crée l'humour et l'humour souvent de façon inédite, atypique, très personnelle. Et c'est une des grandes marques de Chaval. Vous voyez un de ses dessins et vous reconnaissez sa patte immédiatement. La vie selon Chaval est préfacée par Philippe Gueluc. C'est publié par le Cherche-Midi éditeur et les 132 pages de ce livre sont au prix de 16,50 €. Shadok. Poursuivons par une exposition. Elle est un peu loin, c'est à Bruxelles, mais ça vaut vraiment le détour. Et le vernissage a eu lieu à la fin du mois de mars, le 21 mars plus exactement. Et il s'agit de la deuxième partie de Music Graphics. Il y avait eu en 2022 une première édition où à partir des pochettes de disques qui sont souvent illustrées, de très nombreuses en tout cas l'ont été, il y avait après des propositions faites par un certain nombre de dessinateurs. Music Graphics 2, eh bien c'est à peu près le même genre, mais on n'est pas simplement fixé sur la pochette de disque. C'est donc l'illustration qui va être traitée, et puis avec un focus particulier pour un très grand dessinateur, et qui a notamment illustré beaucoup de dessins sur le blues, qui a beaucoup illustré le blues. Il s'agit de Phil de Kemeter. Donc, ça se passe à la Maison de l'Image à Bruxelles, et son nom, comme est indiqué, fait que l'ensemble des expositions, et elles sont régulières, sont centrées sur le dessin, l'illustration, la bande dessinée, la typographie également. Alors, pourquoi je vous parle de cette exposition à Bruxelles ? Parce que même vous aurez peut-être la chance d'aller à Bruxelles d'ici vos vacances, les grandes vacances d'été. Eh bien, parce qu'il y a deux catalogues, le premier qui a été fait à l'occasion de la première édition, et celle-là, le deuxième, a donné lieu aussi à un catalogue tout à fait intéressant, comme chaque catalogue de la Maison de l'Image, parce que cette structure a une particularité, les catalogues sont faits en partenariat, et ils sont distribués gratuitement au moment du vernissage. Ça mérite d'être mentionné, parce que si ça pouvait ouvrir quelques idées à ces partenaires de grandes expositions de dessin en France, eh bien ce serait tout à fait intéressant pour la diffusion de cet art sensible qu'est l'art du dessin. Musique graphique part 2 pour l'exposition actuelle, mais le part 1 est toujours présent. C'est donc publié par la Maison de l'Image, qui est un éditeur responsable. Et il y a 160 pages pour un catalogue et 224 pour l'autre. Et donc avec, pour cette deuxième édition, ce focus tout à fait particulier sur Phil de Kemeter. Et je le rappelle, ils sont gratos. Les moustiques. Continuons avec aussi de l'humour et ce livre Love, virgule, etc. Il est signé Clotilde Delacroix. Alors, c'est un ensemble de gags avec un personnage central qui pourrait être l'autrice. Une mère célibataire, Quadra, qui va décider de se remettre sur le marché de la séduction. Et après une longue pause, elle s'aperçoit que la société n'est pas restée sur place, qu'elle l'a même un peu distancée. Les modes d'interaction et de rencontre à caractère sentimental ou charnel ont bien évolué en quelques années. Love, etc., va dresser le portrait de la tentative de relation amoureuse moderne entre adultes mûrs, consentants, à la fois drôle, touchant, grinçant. Ça n'épargne pas les prétendants souvent maladroits. Mais l'autrice se brocarde joyeusement. Elle est aussi parfois maladroite. Alors, dans les gags, il y a des thèmes qui reviennent. Alors, le thème d'Internet, des sites de rencontres. Alors là, il y a quelques pages assez mémorables où la relation entre Donc l'héroïne de ces pages qui va créer son profil, rien que ça, c'est très savoureux. Et il y a après les prétendants, comment eux-mêmes se désignent, se représentent dans ces sites de rencontres. Et là, il y a aussi de quoi rire. Alors, Clotilde Delacroix se brocarde joyeusement, déjà dans la façon de se représenter. Elle a un trait fin, dynamique, qui rappelle un peu l'état d'esprit de Bretéché, avec 3-4 traits pour représenter des cheveux filasses, quelques petits bouts de seins qui pendouillent un peu, alors qu'elle ne cherche pas du tout à montrer, à présenter comme séduisant. Et elle paraît un peu ridicule dans le dessin. Et puis, il y a cette façon d'essayer de se dépatouiller sentimentalement au milieu de tous ces sites, des réactions des uns et des autres, de ces profils et de ces contacts qui sont souvent fumeux. Et il y a un personnage, celui d'une sorte de Jiminy Cricket, qui va être le répondant à cette héroïne. Donc, il y a un ensemble de situations qui mettent en lumière, en action, en récit, toute cette évolution des relations amoureuses qui ont singulièrement changé, et c'est très bien, depuis MeToo notamment. Alors, il y a quelques pages intitulées Bartiolades qui sont une façon d'extraire quelques citations du fragment d'un discours amoureux de Roland Barthes et de mettre ainsi en perspective les propos de Roland Barthes et la trajectoire de notre héroïne. Il y a dans la mise en scène une volonté d'efficacité, pas de cadre de cases, souvent une unité de cadrage, voire de temps, avec le texte qui va marquer le récit et le faire évoluer. Donc le lecteur va tout de suite percevoir le contexte et va suivre ainsi encore plus précisément le texte qui va amener au gag. C'est un récit d'humour, et cet humour est la façon à Clotilde Delacroix de prendre du recul et de mettre en perspective ce que peut être une femme moderne. Il y a une écriture, en tout cas, qui est en train de se mettre en place et de se déployer avec intensité et qui crée de l'enthousiasme. Love, etc. est donc un ensemble, un recueil d'histoires humoristiques de Clotilde Delacroix. C'est publié par les éditions Delcourt dans la collection Pataquès, qui est dirigée par James, un autre auteur à l'humour assez décapant. Les 80 pages de ce recueil sont au prix de 16 € et le livre a été imprimé en Belgique. Et nous écoutons la premier morceau, celui d'Alain Souchon.
Abderrahmane, Martin, David. Et si le ciel était vide, tant de processions, tant de têtes inclinées, tant de capuchons, tant de peurs souhaitées, tant de démagogues, de temples, de synagogues, tant de mains pressées, de prières empressées, tant d'angélus. Qui résonne. Et si en plus Abderrahman, Martin, David. Et si le ciel était vide, il y a tant de torpeurs de musique antalgique, tant d'antidouleurs dans ces jolis cantiques. Il y a tant de questions et tant de mystères, tant de compassion et tant de revolvers, tant d'angélus. Et si en plus il n'y a personne, Abderrahman, Martin, David.
Kit Paddle fait partie de ces quelques personnages humoristiques qui se sont imposés dans la suite de leurs aînés comme Gaston. Titeuf, Kit Paddle sont des séries à succès. Game Over, série déclinée de l'univers de Kit Paddle, vend plus aujourd'hui d'exemplaires que la série mère. Midam, le créateur de Kit Paddle, personnage créé avec le développement et la généralisation des jeux vidéo, s'est doté d'une bible littéraire pour chacune de ses séries. Elle formalise ce que l'auteur considérait comme impossible pour chacune de ses séries. Ainsi, Game Over restera toujours muette et Petit Barbare ne sera jamais plongé dans un décor actuel. Kit Paddle ne sera jamais bagarreur, grognon, donneur de leçons. Il fera toujours le distinguo entre la vie réelle et le monde des jeux vidéo. Midam Fait Unique a fait appel à ses lecteurs pour l'écriture de nouveaux scénarios. Quand un gag est retenu, son auteur a un contrat d'édition. Peu de réussite parmi le très grand nombre de scénarios reçus. Midam a également constitué une équipe autour de lui. Fabien Bourg, dit Patelin, écrit des scénarios pour Game Over. Alain Devieux dessine également cette série et c'est l'assistant dessinateur. Yann Derain l'est, lui, pour la série Kit Paddle. Le livre révèle les prétentions des adaptateurs de Kit Paddle en dessin animé qui imaginent améliorer la série. Midam se passionne aujourd'hui pour les différences d'écriture entre bande dessinée et dessin animé, développe les produits dérivés avec le même souci de cohérence et déploie pour le parc Spirou en Provence l'espace dédié à Kit Paddle et ses personnages avec le nouveau support offert par le parc. Midam est avec nous pour nous révéler quelques formes de son art du gag. Bonjour Midam.
Bonjour.
Et merci de répondre à nos questions. Alors, comment s'est décidé ce livre d'entretien avec Thierry Tinlot, qui était un des rédacteurs en chef de Spirou au moment où Kit Paddle a démarré?
Bah, Thierry est devenu un genre de mercenaire numérique. C'est-à-dire qu'il s'est retiré un petit peu du monde de la BD, mais il continue à user, profiter de son expérience antérieure. Et il savait que mon éditeur était à la recherche d'une idée pour célébrer les 30 ans de Kit Paddle. Donc, il s'est proposé pour faire l'interview. C'est plus qu'une interview, c'est vraiment En fait, en réalité, il a passé tout l'été avec moi. Et sur ma terrasse, et dans mon grenier, et dans ma cave, pour retrouver des archives, des choses intéressantes, et discuter comme ça pendant des heures et des heures. Il a enregistré certainement une centaine d'heures d'entretien. Et après, bon, il a fallu faire le tri, retaper tout ça par écrit, trouver un fil conducteur, une forme qui est un peu sexy pour les lecteurs, quoi. Mais c'était vraiment, j'ai adoré faire ça parce que on s'est connus au sein du journal Spirou. Il a été rédacteur en chef certainement une quinzaine d'années, je pense. Et donc, on a beaucoup d'anecdotes en commun.
Qu'est-ce que ça représente pour vous de marquer votre œuvre comme ça, et notamment avec ce terme « l'art du gag » parce qu'il a fallu longtemps, notamment, pour qu'on considère que Franquin faisait de l'art lorsqu'il était auteur de bande dessinée.
Oui, oui, tout à fait. Et moi, j'ai toujours été un technicien, quasiment un mathématicien dans le gag. J'ai souvent essayé de mettre les gags en équation. J'en ai trouvé certains. Il y a des gags qui... La seule équation suffit, vous savez, ce fameux gag où vous avez un personnage qui évolue pendant toute une page, et à la fin, la caméra recule, et rétroactivement, on comprend en quoi c'était drôle, parce que c'était, je ne sais pas, une fourmi qui se trimbalait sur le dos d'un chien, par exemple, etc. Et ça, c'est un type de gag que j'ai vraiment beaucoup utilisé, parfois un peu trop, mais ça partait d'une équation. Et donc la construction d'un gag, ça m'a toujours fasciné. Et chez Franquin, il y avait certains gags qui étaient très intéressants aussi, parce que en soi, ils n'étaient pas drôles. C'est-à-dire que si vous racontez tel ou tel gag de Gaston, ça va vraiment pas le faire. Mais tout était compensé par le dessin. Et il y avait un tel plaisir à dessiner des petites scénettes, un tel professionnalisme qui faisait que finalement le gag était vraiment drôle. Et ce sont des choses que je note scrupuleusement dans des carnets pour essayer d'aller dans toutes les directions possibles et imaginables. Et même quand... Parce que bon, on est limité à un moment, vous savez, après 10, 20, 30 ans de gag, c'est tout à fait normal de tourner en rond. Et moi, je le reconnais, je préfère me faire aider plutôt que de me dire, bon, ce gag-là, bon, je l'ai déjà fait un peu différemment, on va le refaire parce que je n'ai pas d'autre idée. Donc, je préfère m'entourer de 100 jeunes autour de moi. Bon, après, c'est rare que je prenne un gag d'un assistant tel quel. On négocie, on discute, on rajoute ceci, cela, pour avoir au final le meilleur gag possible pour le lecteur. Le plus important pour moi, c'est qu'il y ait un gag qui soit validé par moi. Voilà. Mais s'il n'est pas de moi, ou en partie... c'est pas grave. Il faut pas mettre son ego, je pense, trop en avant, parce que finalement, on volerait le lecteur.
Mesdames, comment le livre insiste à juste titre sur ces bibles littéraires, dont une pour chacune des séries, donc Kid Paddle et Game Over. À quel moment elles se sont mises en place et qu'est-ce qu'elles vous ont permis dans l'écriture des scénarios, des gags pour vos séries ?
Mais c'est un... En anglais, on appelle ça un do don't, donc peut faire et ne peut pas faire. C'est un guide. Vous savez, moi, je suis tout à fait partisan de l'adage qui dit l'art naît de la création, se nourrit de travail et meurt de liberté. Moi, j'ai besoin véritablement de rails, de contraintes. Il faut des contraintes pour que je puisse m'y référer. Et ce sont comme des garde-fous. Après, quand on dit, voilà, tu peux faire ce que tu veux dans n'importe quel format, sur la durée qui te plaît, on se perd. Et en tout cas, moi, je me perds. Si vous me donnez une direction vague, un délai, eh bien, je vais m'y référer, je vais travailler de manière beaucoup plus efficace. Donc j'ai besoin de contraintes pour créer. Et ces bibles littéraires sont des contraintes qui me semblent saines. C'est-à-dire que pour Game Over, par exemple, c'est une grande référence à Bibi et le Coyote que je regardais quand j'étais petit. Et je me suis rendu compte que c'était très important de garder certaines lignes. Par exemple, Bibi, il reste toujours sur la route. Il ne sort pas de la route, l'oiseau qui court très vite là. Le décor, c'est toujours, le décor de base est un désert. Dans le petit barbare, le décor de base est aussi un désert. Je n'ai pas du tout envie de transposer des histoires comme ça en mettant en scène le petit barbare dans une ville, par exemple, parce que il n'y a pas d'autres personnages, il n'y a pas de construction, il n'y a pas de rôle social dans les personnages. Les Blorks ne vivent pas dans une ville, ils n'ont pas de métier, etc. Et si on commence à faire ça, alors ça va vite vers quelque chose qui ressemble à du n'importe quoi. On peut avoir l'impression d'enrichir, mais en fait, on appauvrit. C'est comme dans Kid Paddle, ça ne sert à rien, à mon avis, de rajouter des personnages secondaires en se disant « Oh, je vais enrichir la série, je vais rajouter un nouveau personnage qui va donner... » Non, si la série a été proprement bien conçue au départ, oui, il y a quelques personnages qui se rajoutent, mais c'est en début de série. Après, on doit jongler avec les personnages qui sont en scène.
Mesdames, vous évoquez ces personnages, ces nouveaux personnages qui pourraient enrichir, soi-disant, la série. Lors des adaptations en dessin animé, on vous a proposé d'enrichir le personnage féminin pour... comment vous réagissez ? Parce qu'il y a quand même une sorte de différence de considération de la bande dessinée même et une prétention un peu totalitaire des producteurs et réalisateurs de films d'animation.
C'est-à-dire que les producteurs, c'est ceux qui mettent l'argent et donc qui veulent avoir un retour sur investissement. Et ils sont conseillés par des gens qui ont un cahier des charges et qui disent voilà... Il nous paraît absolument évident que mettre à l'écran une cellule monoparentale, ça va toucher moins de personnes qu'une cellule classique avec un papa et une maman. Et donc, le producteur principal m'avait demandé de créer la maman de Kid Paddle. Ce que je n'ai pas fait dans la BD. Et pour quand même rester en contact avec les producteurs et que ce projet voit le jour, j'aurais dit oui, pas de problème, je vais y réfléchir, je vais le faire. Et j'ai tellement traîné que finalement, c'était plus possible d'intégrer la mère dans le dessin animé, parce qu'il y avait eu déjà 10-15 épisodes sans la maman, et finalement, ils ont laissé tomber. Mais c'était des griefs de producteurs pour le fond et pour la forme. Donc, là, je me suis rendu compte qu'effectivement, il fallait il fallait un peu montrer ses biceps, mais il y a eu de la négociation. Pour le père avait dans la BD, le père n'a pas beaucoup de cheveux, il a deux lunettes qui sont des lorgnons en réalité, et donc ils n'ont pas voulu garder ils ont rajouté des cheveux, ils ont enlevé les lorgnons, je crois que la moustache est restée. Et pour chaque personnage, ça a été un scan comme ça de ses particularités. Alors pour Big Bang, par exemple, le petit scientifique, dans la bande dessinée, j'utilise une trame mécanique donc, qui est faite de petits points pour ses cheveux. C'est beaucoup trop compliqué à dessiner, donc ils ont apposé une couleur plus grise. Ça, c'est pas un problème. Horace, il avait des cheveux blancs, très peu de cheveux et blancs. M6 a déclaré, ah ben non, ça c'est... Là, on nous renvoie l'image d'un enfant leucémique, donc ça va pas du tout. Donc on a opté pour refaire un duvet blond sur le crâne de Horace, et ses cheveux qui lui restent, ben, ils sont blonds aussi. Et ça a été comme ça pour tout le temps, pour chaque personnage. Il y a eu un peu de diversité aussi. Ils ont voulu rajouter un personnage secondaire différent des autres, qui n'apparaissait pas dans la BD. Et donc, c'est assez difficile de gérer tout ça, parce que d'un côté, il faut être plutôt conciliant si on veut avoir son personnage à l'écran. D'un autre côté, il faut garder... Il faut garder la création de départ, faire de temps en temps son dictateur, taper du plat de la main sur la table. Et ça, je ne vous parle que de la forme. Après, il y a le fond, il y a l'écriture, où les personnages font des choses qui sont, somme toute, parfois différentes de la bande dessinée. Par exemple, dans le dessin animé, Kid Paddle, il croit à plein de complots. Il y a beaucoup de dessins animés, peut-être un tiers de tous les dessins animés, ils pensent vraiment qu'un des professeurs, c'est un extraterrestre. Alors que dans la bande dessinée, pas du tout. Il sait très bien, comme vous avez dit, il fait le distinguo entre la réalité et la fiction. Mais voilà, bon, ben moi j'avais une bande dessinée à faire. C'est pas parce qu'il y avait un dessin animé que je devais arrêter la BD. Donc j'ai dû faire confiance à un team de 15 scénaristes, qui sont des gars, ils font ça au kilomètre. Et à l'époque, il y en a un qui faisait les Razz Moquette, l'autre qui faisait du Cédric ou du Spirou, et entre deux, ils faisaient du Kid Paddle. Bon, on ne peut pas non plus espérer faire des miracles. Donc, il faut concilier tout ça et espérer qu'il y ait une chimie, au final, qui fait que le produit sera plus ou moins proche, mais je ne pouvais absolument pas endosser l'entière responsabilité, prendre mon bâton de pèlerin tous les jours, faire des corrections, parce que sinon je n'aurais fait que ça. J'aurais dû arrêter la bande dessinée pour me consacrer exclusivement au dessin animé pendant 2 ans. Ça aurait été un suicide éditorial. Donc j'ai donné mon empreinte, mes directives, j'ai croisé les doigts, et au final, je trouve qu'on s'en est vraiment pas mal tiré.
Vous considérez ces 100, plus de 100 épisodes de Kid Paddle avec quand même encore un certain enthousiasme aujourd'hui, mesdames?
Oui, moi je trouve ça très sympa. C'était 2003-2004, par là. Il y avait une chouette ambiance, une très bonne énergie. Je pense qu'aujourd'hui, on le ferait différemment. Bon, c'était encore en analogique, c'est comme ça qu'on dit. C'est-à-dire que c'était sous-traité dans les pays asiatiques, parce que c'était fait à la main. Aujourd'hui, je pense qu'on ferait ça différemment. Mais j'ai beaucoup de bons retours, et ça m'a amené un énorme public qui est venu à la bande dessinée 2-3 ans plus tard. Et donc, il y a eu une très forte hausse de la notoriété. Aussi, dû à tout le merchandising qui est accolé au personnage. À partir du moment où votre personnage passe à la télévision, il y a des tas de marques qui veulent qu'ils paddlent sur leurs t-shirts, leurs chaussettes, leurs pâtes alimentaires, etc. Et donc, ça a vraiment provoqué un très fort engouement. Donc, moi, j'étais vraiment très, très heureux à ce moment-là. C'était très chouette, évidemment. Bon, parfois, je rencontrais en dédicace des gens qui me disaient « Tiens, ça existe aussi en bande dessinée. » Je dis « Mais ça vient de la bande dessinée. »« Ah bon, mais moi, je ne connais que la version dessin animé. »« Ah, ben voilà, écoutez, ben voilà. Vous allez découvrir la version de base. » Et je soupçonne certaines personnes de préférer le dessin animé que la bande dessinée. Ça, c'est déjà arrivé.
Mesdames, je vous propose une pause musicale. On va écouter Avamax et puis on se retrouve pour parler de la relation avec les lecteurs, l'équipe autour de vous aujourd'hui et puis la partie dessin, bien sûr. À tout de suite.
Très bien.
That's the motto. Throw back with no chaser, with no trouble. Popping that Moe, baby, let's make some bubbles. Puffing on that gelato. Wanna be seeing double. Gotta do what you gotta.
Vous êtes sur Radio Escapade dans l'émission Écriture dessinée. Nous sommes en direct avec Midam, l'auteur de Kid Paddle, de Game Over, mais aussi scénariste d'autres séries comme par exemple durant l'exposition, les travaux continuent avec au dessin Clark. Alors, mesdames, dans l'art du gag, on découvre l'appel que vous avez fait aux lecteurs sur un site internet pour qu'ils vous envoient des scénarios. Alors, c'est assez inédit. Et qu'est-ce que ça représente aujourd'hui pour vous, cette démarche? Comment vous la voyez? Parce que vous avez eu énormément de réponses.
Ah oui, oui. Oui, j'en ai eu là. Je crois que dans le bouquin, j'en parle de 30-35 000, mais Depuis, ça a continué. J'ai bien dû en recevoir 40 000. Mais depuis 2008. Hein. Ben, l'idée, c'était... en fait, c'était le programme SETI, qui était de la recherche d'intelligence extraterrestre. Et comme c'est quelque chose que l'État américain ou la NASA ne voulait pas prendre en charge, il y a des gens qui se sont dit, tiens, on va demander à toutes les personnes qui ont un ordinateur de télécharger notre fond d'écran qui fait de la recherche en leur envoyant des blocs du ciel, comme ça, qu'ils ont scanné au préalable. Et, bon, ceci dit, ça n'a jamais rien donné. Mais enfin, je trouvais l'idée pas mal de mutualiser comme ça un énorme pôle de chercheurs. Et finalement, ils ont des millions d'ordinateurs dans le monde. Et je me suis dit, c'est quand même pas mal comme idée, parce que tout le monde est capable de raconter une bonne histoire. Tout le monde n'est pas capable de raconter une bonne BD avec 44 histoires. Mais une histoire, c'est arrivé à tout le monde. Et donc, j'ai vraiment fait un appel comme ça, un peu une bouteille à la mer. Mais c'est bien payé pour le travail, parce que ça, j'y tenais. Je trouve que c'est très motivateur. Et donc, bon, oui, dans le paquet, j'en ai reçu beaucoup. C'est 1% qui est exploitable. Bien souvent, je dois, comment dire, un petit peu cristalliser l'idée moi-même, parce qu'elle est mal exprimée. Mais il y a une idée, mais comme ce ne sont pas des professionnels, il faut la remettre dans l'ordre. Hein. Et au final, j'ai vraiment trouvé mon bonheur là-dedans. C'est une grosse aide pour moi. J'en ai peut-être acheté, je ne sais pas, entre 100 et 200. Mais dans le paquet, surtout, j'ai trouvé des gens qui ignoraient qu'ils étaient scénaristes, dont un professeur de mathématiques avec qui j'ai fait 3-4 albums entiers de Game Over, et on continue à travailler ensemble. Et encore en long. Il y a le gars avec qui je bosse maintenant, c'est Benz, et je l'ai connu, il était mineur, il avait 17 ans. Et je lui ai acheté plein de scénarios, et puis là, on a fait deux albums ensemble. Et voilà, moi, je trouve ça tout à fait logique. Vous savez, j'avais lu un bouquin dans le temps qui s'appelait Mainstream. On expliquait que dans les écoles de cinéma en Amérique, il y avait des gens comme George Lucas ou Steven Spielberg qui offraient à l'école pour des millions de dollars de matériel, des caméras de haut de gamme, à la pointe. Et ils faisaient ça parce qu'ils voulaient qu'il y ait une formation à haut niveau pour après pouvoir utiliser des jeunes réalisateurs et pour pouvoir travailler avec eux. Je trouvais ça formidable. Je crois qu'il y a une humilité aussi après 30 ans de carrière qui fait que ça semble quelque chose de logique, surtout si on veut que son personnage subsiste après la mort.
Donc vous êtes déjà prêt pour la reprise, pour une reprise de Kid Paddle,
oui,
ou de Game Over.
Je préfère vivant, que laisser ça à mes héritiers. Donc comme ça, il n'y aura pas de souci, quoi. Vous verrez juste un article dans la presse où ça sera marqué Game Over pour mesdames, c'est tout. Alors, les BD continueront à sortir.
Donc, mesdames, vous avez constitué une équipe. Vous avez évoqué Patelin, donc qui est scénariste, Benz. Il y a les dessinateurs aussi, comme Adam Deviaux ou Yann Derain.
Oui.
En quoi consiste votre travail aujourd'hui sur vos séries Kid Paddle et Game Over?
Alors aujourd'hui, j'aurais bien aimé trouver davantage de scénaristes pour Kid Paddle, mais c'est vraiment le tendon d'Achille. C'est tellement particulier, vraisemblablement, je pense avoir un humour tellement particulier, que c'est très difficile de trouver des scénaristes qui peuvent reprendre. Donc, je pense que la majorité des scénarios sur Kitadel aujourd'hui, c'est encore moi qui les fait ou qui donne l'impulsion ou qui corrige. Sur Game Over, j'ai moins de corrections à faire au niveau, parce que là, Fabien Bourg commence à vraiment bien connaître son travail. Je fais encore des gags, mais je fais plus de la correction. Et au niveau du dessin, Adam, qui travaille avec moi depuis certainement 20 ans, ben lui, il n'y a plus grand-chose à corriger. Yann Derain, qui travaille sur Kitadel, il y a encore des choses à faire. J'ai encore un nouvel assistant pour l'aider aussi sur Kitadel. Bon, tout ça nécessite pas mal de présence, mais ça me laisse énormément de temps pour faire de la stratégie. C'est très important pour un artiste parce qu'on a le nez dans le guidon, il y a beaucoup de travail. Ce sont deux séries qui fonctionnent très bien. Donc, il faut produire quasiment une centaine de planches par an. C'est beaucoup. Quand on fait ça, on a la tête dans le guidon. Moi, j'ai plus de liberté. Je peux lever la tête et voir un petit peu quelle est la perspective de la route. Et donc, je fais du merchandising, comme vous avez dit. Je prends un très grand soin à calibrer les couvertures. La couverture est quand même la première chose que le lecteur voit. Je suis pas loin de penser que 80% de l'acte de vente se fait grâce à la couverture. Donc il faut des couvertures vraiment qui frappent. Éventuellement avec un petit effet spécial dessus, un petit foil, un petit truc argenté, une petite paillette, un embossage. Ça, moi, j'aime beaucoup réfléchir à ça avec l'éditeur. Et puis, à côté de ça, j'ai une carrière maintenant d'aquarelliste. J'utilise mes personnages, mais sur des grands formats, avec de l'aquarelle. On appelle ça en sélection directe, mais c'est un grand mot pour dire mettre de la couleur sur du papier. Les BD sont faites en noir et blanc, et ensuite elles sont envoyées à un coloriste qui fait ça de manière commerciale et industrielle. Je travaille sur des grandes aquarelles, je fais des expositions depuis maintenant 2018. Je fais aussi des variantes, je travaille du brou de noix, des choses plus artistiques qui sont plus sur les montres, les blocs que je mets en scène avec des marques américaines. Là, pour le moment, j'ai fait une trentaine de toiles de fossiles de blocs avec des coquilles d'œufs. J'aime beaucoup ça me relaxe. En même temps, je profite de toute l'histoire de Kitadel et de Blur pour créer une nouvelle matière artistique. Oui, la création de pluches aussi. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je crois qu'il y a une dizaine de pluches qui sont produites de Blork et de Kitadel pour le parc Spirou. Je suis super heureux quand il y a un gars qui me dit « J'ai lu Kitadel quand j'étais enfant. » Il y a un gars avec un fromage. Il m'a fait rire, vraiment. Et aujourd'hui, je suis maître fromager en France et j'aimerais que mon Roquefort à l'ail porte l'effigie de Horace. Je dis, mais ça, c'est super, c'est génial. Et là, je vais prendre vraiment beaucoup de plaisir et beaucoup de temps pour travailler avec ce maître fromager. Toutes ces choses, je n'aurais vraiment pas eu le temps de les faire si j'étais 100% auteur BD, comme je l'étais il y a encore quelques années.
Mesdames, quand dans le livre, L'art du gag, il y a des exemples de vos aquarelles et de vos œuvres sur les blocs à base de coquilles d'œufs, on a l'impression qu'il y a une expression plus dure où la mort est plus importante. Est-ce que vous ressentez ça ou c'est oui, juste oui, celles qui sont dans le livre oui. qui donnent cette impression?
C'est vrai, je pense que c'est ma nature profonde. Au tout début, quand j'ai fait mes classes d'illustration, j'étais extrêmement attiré par l'œuvre d'Alberto Giacometti, même plus en peinture qu'en sculpture. Et c'est des têtes construites avec un réseau de traits, de fils, presque comme quelqu'un qui le ferait au bic très vite au téléphone, comme ça, avec des yeux noirs. Et ça, c'est quelque chose que je me suis tellement senti proche de ça. J'ai un peu travaillé dans ce goût-là. Et puis, il y a eu pendant 25 ans, c'est pas une parenthèse, mais tout l'épisode bande dessinée, qui est vraiment dédié plutôt aux enfants et aux jeunes adultes dans la forme qu'on lui connaît. Et dès que je peux faire autre chose, je vais plutôt dessiner mes blocs dans un registre plus sombre, avec uniquement des couleurs sépia. J'aime beaucoup les valeurs du sépia. Et il y a aussi ce côté aujourd'hui sur les grandes toiles, parce que ce sont des toiles parfois qui font 2,20 m de haut. Il y a ce côté fossile, archéologique, respectabilité, et en même temps qui met en scène un dessin somme toute un peu grotesque. Et c'est ce décalage que j'aime beaucoup.
Quel dessinateur êtes-vous, mesdames? Comment ça se passe ou ça se passait sur votre table à dessin?
C'était je dessine certainement encore 5-6 heures par jour. Avant, je dessinais beaucoup plus, 8-10 heures. Aujourd'hui, je dessine un peu moins, mais je fais plus de peinture ou d'illustration. Mais là, j'ai fait des planches, par exemple, pour le prochain Kid Paddle, j'ai rencontré un gars à Hong Kong qui est un dessinateur chinois de manga. Et je lui ai dit, je veux absolument faire le père de Kid qui rêve, enfin plutôt Kid qui rêve de son père dans un restaurant chinois et qui va devenir une espèce de monstre, un dieu monstrueux chinois. Et je veux qu'il fasse toute cette métamorphose à la manga. Donc ça va être une double planche à quatre mains. Mais moi, quand je dessine, je suis très, très... très mathématique, c'est-à-dire que je ne suis pas un grand dessinateur en ce sens que si vous me demandez de dessiner le trio, Kid, Horace et Big Bang, trois personnages, mettons son père avec une taille différente, eh bien je vais les dessiner séparément. Je vais dessiner les quatre personnages à quatre endroits différents sur la feuille, et c'est après, avec un jeu de photocopie, que je vais les repiquer sur la page définitive à la bonne taille, mais au millimètre près. Donc je ne fais pas trop attention à me dire, tiens, le père n'est pas assez grand, ou qu'il est trop petit. Tout ça est corrigé après. Et j'ai fait toutes mes planches de bande dessinée, ont été travaillées comme ça. Donc il y a un côté vraiment... c'est presque être maniaque de bosser comme ça. Mais je le fais encore, et je fais ça vraiment pour avoir une fluidité dans la lecture. Même quand il y a une bulle de texte qui touche le personnage, ça me gêne. J'essaye de ne pas la toucher, parce que ça gêne d'une microseconde la lecture. Donc, en recomposant comme ça mes images sur le papier définitif, je résous beaucoup de problèmes. Tous les petits nœuds graphiques où on pourrait se dire, tiens, cet objet... Il est devant ou il est derrière Kid Paddle, parce qu'il touche bord à bord sa casquette, mettons. Ah non, il faut le mettre derrière, là je vais l'éloigner, etc. Donc j'essaye vraiment d'avoir une fluidité parfaite.
Merci beaucoup, mesdames, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle les références de ce livre, Mesdames, l'art du gag, entretien avec Thierry Tinlot. C'est publié par les éditions Dupuis. Les 130 pages de votre livre sont au prix de 25 euros et le livre a été imprimé en France. Merci, mesdames, et très bonne continuation.
Au revoir.
À bientôt. Au revoir. Voilà, c'était donc Midam. Je ne peux que vous inviter à découvrir, redécouvrir, savourer, goûter avec le plus grand enthousiasme ces séries. Et n'oubliez pas celle avec Clark Durand. L'exposition, les travaux continuent. Merci Fabien pour cette technique et ben on se retrouve la semaine prochaine. Très bon après-midi sur les ondes de Radio Escapade. Écriture dessinée.